Alors, le titre que j'ai donné à cette conférence est un petit peu curieuse et énigmatique, de Freakonomics à la neuroéconomie. Pour vous guider, j'ai mis un sous-titre aujourd'hui, et ce sous-titre, c'est le rôle des incitations. Donc, je souhaiterais vous parler d'incitations aujourd'hui. Est-ce que nous sommes vraiment guidés par les incitations monétaires? Est-ce que seulement les incitations monétaires nous guident? Est-ce que les incitations monétaires, finalement, ne nous font pas réagir à l'opposé de ce qu'on s'attendait, de ce qu'on attendait a priori? Donc, voilà, je vais vous parler de tout ça et je vais expliciter mon titre très rapidement. Le plan de mon exposé va consister en quatre parties. Je voudrais tout d'abord vous convaincre que l'économie, c'est essentiellement une méthode de raisonnement, pas seulement un ensemble de résultats, mais c'est surtout une méthode de raisonnement. Ensuite, je voudrais vous montrer comment cette science est devenue une science expérimentale. Donc, comment est-ce que nous arrivons à reproduire en laboratoire des situations économiques. Ensuite, je voudrais vous montrer ce que j'ai appelé les quelques petits trésors de l'économie comportementale. Il s'agit de quelques résultats curieux, bizarres, qui nous posent des questions. Donc, je vous en montrerai quelques-uns. Et puis, je terminerai en vous présentant deux directions récentes de nos travaux. La première consiste à aller rechercher dans ce qu'il y a de plus petit, donc rechercher dans les neurones, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain quand nous prenons des décisions économiques, quand nous raisonnons face à des choix économiques. Et puis, la deuxième tendance, c'est au contraire, c'est aller rechercher dans l'environnement ce qui aide à comprendre les choix économiques des individus. Donc on va vers le plus petit, le cerveau, ou on va vers le plus grand, l'espace. Est-ce que les modèles que nous produisons en Europe, aux États-Unis, s'appliquent à toute société en tout temps? Voilà. Alors pour commencer, une méthode de raisonnement. Alors c'est la première partie du titre de l'exposé d'aujourd'hui, de Freakonomics à la neuroéconomie. Alors Freakonomics, pourquoi? Alors, Freakonomics, c'est un livre qui a été publié il y a 5 ou 6 ans, donc un livre de Levitt et Dubner, qui a connu un succès mondial absolument incroyable. Alors, pourquoi? L'idée majeure de cet ouvrage, c'est de dire que les incitations sont au cœur de la vie moderne. Même si elles sont cachées, dans tous nos actes, en général, nous répondons à des incitations. Et donc l'économie, c'est simplement une science des incitations et surtout de leurs mesures. Donc les incitations, elles sont bien cachées parce que on ne les trouve pas a priori, et pas toujours en tout cas. Et c'est pourquoi vous voyez cette pomme qui, en fait, quand on la découpe, délivre un quartier d'orange. Les incitations, le rôle des incitations, c'est parfois bien caché. Je vais vous donner des exemples pour illustrer ça. On s'est rendu compte aux États-Unis que, par exemple, le nombre de césariennes est supérieur dans les zones où la population diminue. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que les économistes ont à dire sur cette question-là? Alors, les économistes sont un peu curieux, et donc ils aiment bien aller gratter, puis ils aiment bien chercher des données. Donc, dès qu'on trouve des bases de données, des données d'enquête, on aime bien regarder, on applique nos méthodes de calcul, nos méthodes statistiques, puis on essaye de trouver s'il y a des corrélations avec certaines variables. Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette histoire de césarienne, en fait? Tout simplement que dans les zones où la population régresse, les obstétriciens font moins d'actes d'accouchement, mais en revanche, ils essayent de maintenir leur pouvoir d'achat en faisant des actes qui leur rapportent davantage. Et en particulier, une césarienne, ça rapporte plus qu'un accouchement par les voies naturelles. Et on a pu montrer qu'il y avait une corrélation tout à fait claire, évidente, entre le type d'acte que les médecins font et l'évolution de la population. Donc quand vous êtes dans une population, dans une zone où la population augmente, c'est bon, le chiffre d'affaires est relativement assuré avec des accouchements classiques. Dans les zones où la population baisse, le chirurgien, l'obstétricien, va essayer de garder son chiffre simplement en faisant des actes plus coûteux. Voilà. C'est pas une histoire d'incitation, mais on a quand même l'impression que les incitations monétaires jouent un certain rôle. Je ne veux pas vous convaincre avec un seul exemple, donc je vais en prendre un deuxième. On se rend compte qu'il y a une pénurie de médecins de famille dans certains pays. Mais c'est surtout vrai dans les pays où on paye à l'acte. Alors c'est vrai que vous savez, en France, les médecins généralistes, on dit souvent qu'on en manque, en tout cas dans certaines régions. Hein. Alors là aussi, qu'est-ce que les économistes ont bien pu aller trouver de ce côté-là? Ben, en fait, on se rend compte que dans les pays où il y a le paiement à l'acte, le médecin a tendance à ne pas prendre de nouveaux clients. Mais il va préférer aller voir plus souvent ses anciens clients. Et si vous réfléchissez bien, vous avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, des parents d'un certain âge. Et en général, le médecin passe les voir très régulièrement. Ben, c'est intéressant pour un médecin parce que c'est une clientèle régulière, qui a une pathologie bien connue, puisque c'est la même personne qu'on vient voir régulièrement. Et donc, c'est là aussi un chiffre d'affaires relativement aisément assuré. C'est plus intéressant d'avoir un client qu'on va voir tous les mois que de prendre des nouveaux clients qu'on ne connaît pas avec davantage de risques de difficultés de détection de leurs problèmes. Et là aussi, on se rend compte que dans ces pays avec paiement à l'acte, on a systématiquement une pénurie de médecins généralistes et simplement parce que ces médecins généralistes vont avoir tendance à aller voir plus souvent les mêmes clients qu'à augmenter la taille de leur clientèle. Voilà, là aussi, c'est une étude économique qui montre ça. Encore un petit exemple dans un autre domaine. Vous avez sans doute eu à vendre un jour un bien immobilier. Et bien, sachez que les agents immobiliers aussi vendent leur maison de temps en temps. Et on se rend compte qu'en général, ils mettent un peu plus de temps à vendre leur maison et qu'aussi, ils la vendent un peu plus cher. Bah, pour les États-Unis, on considère, enfin, il a été montré qu'ils mettent 10 jours de plus en moyenne que vous à vendre leur maison et ils la vendent 3% plus cher. Je vous parlais tout à l'heure d'asymétrie d'information. Là, on est en plein dedans. On a affaire à des experts du marché immobilier et ils mettent plus de temps. Bah, réfléchissons bien, qu'est-ce qui se passe? Si vous allez voir pour vendre un bien un agent immobilier, il a intérêt à vous persuader assez rapidement que le client qu'il vous a trouvé vous fait franchement une offre intéressante. Vous pouvez bien sûr attendre un peu, mais le marché n'est pas très bon, le marché en ce moment. Donc peut-être vous feriez mieux d'accepter cette offre-là. C'est une expérience que je pense beaucoup d'entre nous ont pu faire. Mais les agents immobiliers, eux, vendant leur maison, mettent beaucoup plus de temps, comme si le marché était meilleur pour eux que pour nous. C'est le même. Donc, là aussi, on peut penser que l'asymétrie d'information pour les experts les aide à avoir un choix sans doute plus rationnel, plus informé, bénéficie d'informations meilleures que les vôtres sur l'état du marché. Et ça explique qu'ils soient prêts à attendre un petit peu plus longtemps et moyennant quoi, ils arrivent à vendre un peu mieux, à des meilleures conditions, leurs biens. Voilà. Donc tout ça, ce ne sont que des exemples. Mais ce sont des exemples avec des études économiques chiffrées qui délivrent des conclusions assez radicales. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus profondément dans le raisonnement. Et je vais reprendre un des exemples de Levitt et Dubner pour vous faire comprendre le rôle des incitations. Alors, comme je sais que dans la salle, il y a des passionnés de sumo et qu'il y a certainement également des instituteurs ou institutrices, j'ai retenu cet exemple-là. Qu'y a-t-il de commun entre les instituteurs et les lutteurs de sumo? Bon, a priori, rien, on est bien d'accord. Mais attendez avant de répondre. Je vais d'abord vous parler des instituteurs. Alors, on a mis en place aux États-Unis, mais ça existe aussi en France, mais j'ai l'étude plus détaillée pour les États-Unis, des tests qu'on appelle les tests à fort enjeu dans les écoles publiques, en particulier dans les écoles publiques de la région de Chicago. C'est une politique générale qui est liée à l'administration de Bush. Hein. Bush avait fait une loi qui s'appelait, enfin pas une loi, mais un programme qui s'appelait No Child Left Behind, donc on ne doit pas laisser d'enfants sur le tapis. Hein. Et donc, pour essayer d'avoir une meilleure politique éducative, il a été décidé d'augmenter l'évaluation des enseignants et des enfants. Alors, une étude a été faite par les auteurs de Freakonomics sur cette zone de Chicago, parce qu'à Chicago, en fait, depuis 1993, il y avait ces tests, mais depuis 1996, les autorités municipales avaient décidé que dans les écoles publiques, le résultat de ces tests aurait des conséquences sur les choix de fermeture de classe, voire d'école. Donc les écoles qui ont les plus mauvais résultats aux tests pourraient être fermées tout simplement et les enseignants licenciés ou mutés dans d'autres écoles. À l'inverse, il y avait d'autres États qui ont plutôt joué sur la récompense. Et par exemple, dans l'État de Californie, les meilleurs instituteurs, les instituteurs qui avaient les meilleurs résultats, pouvaient obtenir des primes qui allaient jusqu'à 25 000 dollars par an. Même si le cours du dollar a baissé, c'est quand même significatif. Alors, le problème, c'est que quand ces tests ont été mis en place, il y a eu beaucoup de petites histoires, des élèves qui rentraient chez eux en disant « Ah, la maîtresse, elle est super sympa, elle nous a mis la réponse au test sur le tableau. » Et bon, il y a eu de la suspicion sur la valeur de ces tests. Et donc, les tests biaisés, il y a des tas de méthodes pour biaiser des tests. Le fait de laisser un temps supérieur aux enfants pour répondre, essayer de les entraîner avant aux questions qu'on suppose vont être posées, voire dans certains cas de la fraude, c'est-à-dire des cases blanches qui sont remplies par le maître après le test, etc. Donc il y a eu des suspicions, en tout cas, de tricherie. Alors, nos économistes sont allés voir en détail le contenu de ces tests. Donc ils ont réussi à voir les tests pour chaque enfant et ils ont pu relier les enfants à leur classe, à leurs enseignants, et ça sur plusieurs années. Et ils ont appliqué sur chacun des tests, donc de 93 à 2000, un algorithme de détection. Alors c'est simplement un dispositif reposant sur des algorithmes qui vous permettent de voir si une copie est suspicieuse ou pas. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Par exemple, si des mauvais élèves répondent systématiquement aux dernières questions, c'est un petit peu bizarre. Les dernières questions, c'est comme chez nous. On commence par des plus faciles et puis on va vers les plus difficiles. Donc si vous voyez que des mauvais élèves répondent aux dernières questions et comme par hasard, ces mauvais élèves sont presque tous dans la même classe, on a des doutes. Si un score est largement supérieur une année pour un enfant, pour un ensemble d'enfants, par rapport à ce qu'ils avaient l'année d'avant et ce qu'ils ont, comme au résultat des tests l'année d'après, là aussi, vous pouvez soupçonner qu'il y a certainement des tricheries. Alors, qu'est-ce que donne le résultat de cette analyse? En fait, ils ont repéré des tricheries dans 200 classes. Ça représente à peu près 5%. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Ces tricheries avaient lieu surtout dans les écoles où les scores aux tests étaient en moyenne plus mauvais qu'ailleurs. Alors, la réaction de la municipalité de Chicago après cette étude a été de dire, eh bien, on va refaire les tests avec les mêmes enfants, les mêmes enseignants, et puis on va voir ce qui se passe. Mais là, ils vont faire les tests avec un contrôleur. Donc, il n'y avait plus de possibilité de tricherie. Donc, ces tests ont été refaits. Et qu'est-ce qui est apparu? Que les prédictions des économistes étaient confirmées par ces tests, c'est-à-dire que des enfants qui avaient des tests, des bonnes notes surprenantes aux tests, au deuxième test, avaient des notes tout à fait médiocres. Donc la confirmation de suspicion a été faite, et donc des enseignants ont été licenciés, et le résultat, c'est que l'année d'après au test, la tricherie, les mesures de tricherie ont été refaites, et la tricherie a baissé de 30%. Vous voyez, dans cet exemple-là, un dispositif qui n'a rien d'économique au départ, des tests d'évaluation, mais des tricheries, des sanctions des tricheries et une baisse des tricheries après l'application des sanctions. D'accord ? Donc, laissons de côté cette histoire d'école. Maintenant, je vais vous parler de sumo. Alors, les sumo font des tournois. Alors, c'est un sport évidemment traditionnel qui est très, très important au Japon. Et là, nos économistes se sont intéressés aux données des compétitions de sumo entre 1989 et 2000. Donc ça représente à peu près plus de 30 000 rencontres. Dans ces compétitions de sumo, ce qui compte, c'est le rang, bien sûr. Ces tournois sont organisés chaque 2 mois. Et vous avez par tournoi 15 rencontres sur 15 jours. Donc chaque jour, une rencontre. Vous devez, pour augmenter votre rang, gagner au moins 8 tournois. Enfin, 8 des rencontres. Si vous ne gagnez pas au moins 8 des rencontres, vous baissez dans le classement. Alors, c'est pas qu'une affaire de rang. Vous savez que les écarts de salaire entre les sumo qui sont en haut de la ligue et ceux qui sont en dessous sont énormes. C'est comme dans le football chez nous. Mais vraiment de très, très gros écarts de salaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le prestige. Et puis, il y a les obligations morales, c'est-à-dire qu'un sumo qui est rétrogradé va devoir être quasiment au service des sumos qui sont en haut de la hiérarchie. Donc, par exemple, il doit lui préparer le repas, ils doivent les laver, ils doivent... Voilà, c'est quand même très, très particulier. Hein. Donc, personne n'a envie de perdre son rang, d'être déclassé dans ces compétitions. Alors, l'idée de nos économistes, ça a été d'analyser finalement ce qui arrive aux joueurs qui sont l'avant-dernier jour du tournoi en position 7-7, c'est-à-dire qu'ils ont gagné cette fois, ils ont perdu cette fois, il reste un seul match. S'ils perdent le dernier match, ils sont rétrogradés, donc ils vont faire la vaisselle et le nettoyage des sumos les meilleurs. S'ils gagnent le match, on leur fait leur vaisselle et on leur prépare leur repas. Il y a un bel enjeu quand même. Hein. Donc, l'économiste va reprendre toutes ces données et il va s'intéresser aux résultats des combats du dernier jour, les combats qui opposent les sumos qui sont à 7 victoires, 7 défaites, et les sumos qui sont à 8 victoires, 6 défaites. Donc, eux, ils sont tranquilles, hein, ils sont assurés d'augmenter leur rang. Eux, ils ont peur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut calculer en fonction des performances réalisées jusque-là la probabilité objective que notre sumo 7-7 gagne sa compétition, sa dernière compétition. Et la probabilité, le calcul nous donne 48,7%. Il est un peu moins bon que celui qui est à 8-6, donc la probabilité est un petit peu inférieure à 50%. Voilà. Donc ça, on prédit que, compte tenu des performances des rencontres précédentes, le sumo à 7-7 a 48% de chances de gagner son match. Ben, en fait, la réalité, c'est les données réelles ne disent pas du tout ça. Le taux de victoire du sumo 7-7 contre un 8-6, c'est de 79,6%. Et contre un sumo qui a déjà 9 victoires et 5 défaites, c'est encore de 73%. Alors c'est un peu louche quand même. S'ils sont à 7-7, c'est sans doute qu'ils sont moins bons que ceux qui ont déjà gagné 8 ou 9 fois. Et pourtant, la probabilité de victoire observée est largement supérieure. Donc c'est très très curieux. Et puis, alors on arrête cette compétition, puis on regarde ce qui se passe à la prochaine rencontre. Entre ce sumo 7-7 qui a donc gagné le dernier match, qu'est-ce qui se passe la fois d'après quand on n'est plus dans le tournoi ? Eh bien, les statistiques nous montrent que le taux de victoire n'est plus que de 40% quand on redémarre une autre compétition. Donc il y a quelque chose de très louche derrière ces données-là. Sur la base de ces analyses, donc, il a été montré qu'en fait il y a de la collusion et que les sumos qui sont à 8-6 laissent en fait gagner les sumos qui sont à 7-7. Eux, ça ne leur coûte pas grand-chose. Ça rapporte beaucoup au sumo qui est à 7-7. Et il est clair qu'il y a une promesse, en gros, je te laisse gagner pour ce tournoi, mais à notre prochaine rencontre, c'est moi qui gagnerai. D'où le 40% quand on redémarre une nouvelle compétition. Alors à la suite de ça, il y a eu des procès hein, contre des sumos très célèbres, et ces procès ont donné lieu à des sanctions extrêmement graves. Et après ces vagues de procès, qu'est-ce qu'on a observé ? Ben, le taux de victoire des sumos 7-7 après les procès était de 50%. Donc tout est rentré dans l'ordre après la détection. Alors j'espère, avec ces deux exemples, vous avoir aidé à comprendre ce qu'il y a de commun donc, entre les instituteurs et les lutteurs de sumo. C'est la réaction aux incitations. Voilà ce qui est en commun, c'est-à-dire que dès qu'un système est mis en place, dès qu'un système incitatif est mis en place, l'agent économique va l'utiliser. Va simplement essayer de le contourner à son avantage. C'est un principe économique de base, hein, c'est essayer d'obtenir davantage avec moins de ressources, moins d'énergie. Donc ça, c'est un principe que les économistes arrivent à identifier dans des situations très, 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 très variées. Si vous pensez que j'exagère, vous avez le droit, mais je vais encore vous donner un autre exemple. Le 15 avril 1987, il y a 7 millions d'enfants américains qui ont disparu. Alors, vous pouvez penser qu'il y a eu un rapt colossal, qu'on a eu une attaque de martiens, je ne sais quoi. Non, en fait, ce qui s'est passé le 15 avril 1987, à minuit, c'est que le régime fiscal a changé. Jusque-là, pour les parents, pour que les parents déclarent des enfants à charge dans leur déclaration fiscale, il suffisait qu'ils indiquent l'âge des enfants. Et à partir du 16 avril 1987, on leur a demandé à ces contribuables d'indiquer le numéro de sécurité sociale de leurs enfants. Et ben, le résultat a été immédiat, il y a 7 millions d'enfants qui ont disparu, hein, tout d'un coup. Ils avaient sans doute jamais existé, heureusement, mais voilà. On sait très bien que quand on change une règle fiscale, immédiatement, on observe des résultats différents dans les déclarations fiscales. C'est des exemples comme ça. Dans ce livre Freakonomics, vous en voyez des quantités énormes, simplement pour montrer que dans toute situation, bah, l'agent économique apprend à utiliser les incitations, même quand elles sont cachées, et contourne de fait ces incitations. Donc l'économiste, lui, va chercher quoi ? Il va simplement chercher à comprendre quelles sont les meilleures incitations dans un contexte d'asymétrie d'information en s'appuyant sur des mesures quantitatives. Donc si je veux résumer mon activité professionnelle, c'est ça, c'est de réfléchir sur quelles sont les meilleures règles à mettre en place, quelles sont les meilleures incitations à mettre en place pour essayer de pousser les individus à révéler toute leur information. Ça, c'est le premier point de mon exposé. Je voudrais maintenant vous parler du rôle de l'expérimentation, le rôle des expériences. Alors, c'est une nouvelle méthode. Moi, quand j'ai appris l'économie à l'université, en général, le deuxième cours d'économie générale commençait par la phrase suivante. L'économie n'est pas une science expérimentale. Il est impensable d'imaginer que l'on puisse tester en laboratoire les décisions des agents économiques. Et ça, c'était une phrase qui était reprise dans tous les manuels d'économie. On ne peut pas faire d'expérience à la différence des sciences exactes, de la biologie, de la médecine. Alors ça a été maintenant complètement balayé, puisque désormais, on peut dire que l'économie est une science, est devenue une science expérimentale. Depuis quand ? Ben, c'est pas tout jeune, hein. Ça a commencé au départ avec des expériences faites en classe, avec des étudiants, dans les années 40. Ça s'est développé surtout dans les années 80. Et puis, ça a été consacré par l'attribution d'un certain nombre de prix Nobel. Reinhard Zelten, tout d'abord, qui, lui, a reçu le prix Nobel pour ses travaux en théorie des jeux, donc pour expliquer comment les agents économiques établissent des stratégies quand ils n'ont pas toute l'information disponible. Et puis en 2002, le prix Nobel d'économie a été attribué à Vernon Smith pour ses travaux sur les marchés, comment les expériences permettent de reconstituer des marchés, de prédire la meilleure organisation des marchés possible. Et le prix Nobel a été également attribué à un psychologue, qui est Daniel Kahneman. Alors ça, c'est quand même troublant. On a été donné le prix Nobel d'économie à un psychologue. Ben oui, parce que, en fait, Daniel Kahneman a fait rentrer dans l'analyse économique tout un ensemble de biais psychologiques qui permettent de comprendre comment les agents économiques réagissent face à des situations d'incertitude ou de risque. Et donc, maintenant, grâce à ces travaux, nous avons un agent économique qui est un petit peu plus riche qu'auparavant, parce qu'on considère certes un agent économique, mais il a aussi une psychologie. Il peut avoir peur du risque, il peut au contraire rechercher le risque. Je vais essayer de vous parler de ça plus en détail. Juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'expérimentation ? Bah, l'expérimentation, c'est un outil, hein, c'est simplement une méthode pour étudier donc, les comportements. Et l'économie comportementale, c'est simplement le fait que les économistes incorporent la dimension psychologique des comportements dans le raisonnement. Et donc, expérimenter, c'est simplement recréer en laboratoire une situation économique. Donc, ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas de la simulation, c'est recréer en laboratoire des vraies décisions économiques. Je vais un peu illustrer ça. Au départ, on a une question, bien sûr. Par exemple, un choix d'investissement ou un mode d'organisation d'enchères. Vous savez, quand on a vendu les licences pour les téléphones mobiles, on a appelé les expérimentalistes, économistes, hein, et on leur a dit, essayez de nous dire comment on devrait vendre ces licences, comment on vend les ondes. C'est pas ce que c'est les ondes, il n'y a pas de coût de production à des ondes. Hein. Donc aidez-nous à mettre un prix là-dessus. Alors, les économistes, en général, ils aiment quand même bien les marchés. Donc, oui, il fallait organiser un marché pour vendre ces ondes. Et pour vendre des ondes sur un marché, on s'est dit, bah, après tout, les enchères, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que les enchères, ça force tout le monde à révéler son information. Oui, mais les enchères, il y en a des tas de types. Vous pensez aux enchères chez Drouot, où chacun on a un objet à vendre, et puis chaque enchérisseur va proposer un prix, puis on va augmenter le prix comme ça, puis à un moment donné, il n'y a plus de surenchérisseur. À l'opposé, en Hollande, quand on vend les fleurs, c'est le contraire. On part d'un prix très haut, puis on baisse le prix. Puis à un moment donné, si vous êtes sûr de vouloir acheter vos tulipes, vous allez dire « oui, bah, je prends à ce prix-là ». Peut-être que vous auriez pu laisser baisser encore le prix un peu plus longtemps, mais voilà. Alors, quand on vend des ondes, qu'est-ce qu'il faut prendre? Des enchères anglaises, des enchères hollandaises? On ne sait pas. Donc, on peut faire le test en laboratoire. On teste les deux, puis on voit ce qui révèle le plus l'information. Donc, on a une question économique au départ. D'accord? Alors, les économistes sont assez matheux en général, donc on va faire une modélisation. Donc on va faire un modèle théorique, mathématique, pour prédire un comportement. Donc ce modèle mathématique, voilà, petit truc là. Je dis un petit truc parce qu'il était beau, mais là il y a des signes qui ne sont pas ceux que j'avais tapés, donc il ne veut plus dire grand-chose. Hein. Mais bon, on a un modèle mathématique qui nous délivre des prédictions. Sur cette base-là, on va essayer de refaire en laboratoire le modèle théorique. Donc on va définir un protocole, comme un protocole médical. Donc ce protocole, il va préciser quel est le rôle des individus, est-ce qu'ils sont vendeurs, est-ce qu'ils sont acheteurs, la séquence d'interaction entre les sujets, est-ce que tout le monde fait des offres en même temps sur le marché, ou est-ce que c'est chacun son tour, le niveau d'information, est-ce qu'on va annoncer l'offre d'un des enchérisseurs, ou est-ce qu'on donne toutes les offres en même temps, ou est-ce qu'on les garde secrètes. Voilà, on précise toutes les conditions de la prise de décision. Une fois que ce protocole est défini, on va passer au laboratoire, donc on va faire des tests en laboratoire ou ce qu'on appelle test de terrain, ça peut être en entreprise, ça peut être sur des marchés, n'importe où. Ces tests vont être faits avec souvent des étudiants, mais on peut évidemment les faire aussi avec des salariés en entreprise. On va récolter donc des données, on va analyser ces résultats, on va appliquer à ces résultats des analyses statistiques, économétriques, puis on va délivrer des recommandations. Les décisions en laboratoire, elles sont totalement anonymes. Parce qu'il est important que je ne copie pas sur mon voisin pour faire simplement ce qu'il a fait, parce que je ne sais pas trop quoi répondre. Donc je vais vous montrer des photos, on est dans des espèces d'isoloirs, et on prend ces décisions de façon anonyme et confidentielle. Les sujets n'ont pas le droit de parler entre eux. Donc vraiment, ils sont seuls avec leur ordinateur pour prendre leurs décisions. Ils sont payés. Mais ils ne sont pas payés pour les dédommager de leur temps, ils sont payés en fonction de leurs résultats. On introduit des incitations dans le laboratoire et on les contrôle, si vous voulez. On paye, c'est-à-dire vous savez que si vous prenez telle décision, voilà ce que vous allez gagner. Si vous prenez telle autre décision, voilà ce que vous allez gagner. Maintenant, à vous de choisir si vous préférez gagner plus que moins. Et vous pouvez avoir d'autres valeurs que simplement gagner le plus d'argent possible. Mais en tout cas, les décisions sont incitées. Les décisions sont répétées, en général une vingtaine de fois. Et donc, on arrive à accumuler, en très peu de temps, de l'ordre d'une heure, énormément d'observations. Alors, souvent, ce qui nous intéresse, c'est la comparaison entre des traitements. Vous savez, en médecine, on va avoir une population placebo et puis une population traitée. Ben là, on va faire la même chose. Je vous ai dit, on ne sait pas si c'est les enchères anglaises ou hollandaises les meilleures. Une population va faire les anglaises, une autre population va faire les hollandaises, et puis on va voir quelle est l'enchère qui marche le mieux. Voilà. Donc c'est finalement le même principe qu'en médecine. On a un protocole, on soumet ce protocole dans des conditions très strictes à des sujets, on varie un traitement, et puis on voit quel est l'effet de la variation du traitement sur les choix économiques. Oups. Voilà, pour être un peu plus illustratif, les photos ne ressortent pas très bien, mais ici, c'est le laboratoire du GATT. Donc, vous voyez ces espèces d'isoloirs. Hein. Chacun est dans son box, face à son ordinateur, et prend ses décisions. Là, c'est un autre laboratoire à Montréal, mais c'est le même principe, hein, des rideaux, simplement, ici, qui séparent les sujets. Ça, c'est un laboratoire reconstitué dans une entreprise, en l'occurrence le Crédit Suisse, la semaine dernière à Lausanne. On a fait une expérience avec les salariés de la banque et on avait une grande salle à notre disposition. On est venu avec notre laboratoire mobile, on a installé des petits ordinateurs, on a mis des cloisons, puis on a reconstitué un laboratoire.
Il y a combien de personnes pour travailler ?
Alors, en général, on travaille avec des sessions de 20 personnes et on fait plusieurs sessions à la suite. Donc, en général, on a autour de 200 sujets. En moyenne. Mais 200 sujets qui prennent 20 fois leur décision, ça fait déjà 4000 observations. Voilà. Et puis ça, c'est une expérience qu'on a faite au Vietnam cet été, ce qu'on appelle les expériences de terrain. Donc on peut aller faire des expériences dans des pays en développement, hein, ça dépend de ce qu'on teste. Là, vous voyez, on l'a fait dans une église parce que c'est le local qu'on nous avait donné. Donc ça peut être dans des écoles, bon, dans n'importe quel endroit, à partir du moment où on peut reconstituer ces conditions avec ce protocole, ces instructions, ces décisions confidentielles et la rémunération en fonction de ces choix.
Et est-ce qu'on obtient les mêmes résultats selon les cultures ?
Alors j'ai prévu de parler de ça un peu plus tard, si vous me permettez, je reviendrai exactement sur cette question plus tard. La réponse est ça dépend, donc parfois oui, parfois non. J'essaierai d'être un peu plus précise.
Pourquoi vous prédisez... les gens en fonction
des résultats. Alors, c'est une grosse différence avec les psychologues, parce que les psychologues font aussi des expériences, mais en général, ils payent un forfait. Alors, pourquoi nous, on paye des montants liés aux résultats ? Ben, on n'est pas tellement intéressé par des décisions qui seraient prises au hasard. Moi, si on me paye 10 euros ou 15 euros pour passer une heure dans le laboratoire, et je sais que j'interagis avec d'autres personnes dans la salle, je ne sais pas qui, je ne saurais jamais qui, mais je peux être tenté de prendre tantôt une décision extrême, puis tantôt l'extrême opposé de la décision que j'ai prise à la période d'avant. Simplement parce que c'est rigolo d'aller voir ce que ça fait sur les autres quand je prends une décision ou une autre. Donc le fait de payer les personnes en fonction de leurs résultats, ça élimine ce genre de comportement non contrôlé qui est du bruit finalement. Hein ? Il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison, c'est que, elle est plus sérieuse celle-là, c'est que dans les modèles théoriques de l'économiste, on part d'un présupposé que les agents cherchent à gagner plutôt plus que moins. On est comme ça, on a ses défauts. Nous, économistes, on croit ça, que les gens, en général, ils préfèrent gagner plus, mieux qu'être pauvre. Voilà. Donc si on croit à ça, ça veut dire que nos modèles théoriques reposent sur ce présupposé. Les individus cherchent à gagner plus. C'est ce que je vous ai montré avec les instituteurs, avec les sumo, etc. On cherche à gagner plus. Et donc, si on cherche à gagner plus, on doit reproduire ça dans le laboratoire également. Donc, on doit expliquer aux gens, si vous prenez, comme dans la vraie vie, hein, si vous faites tel choix, alors vous gagnerez ça. Si vous faites tel autre choix, alors vous gagnerez ça. Si vous décidez de faire des études et d'arrêter au niveau du CAP, si vous décidez d'aller jusqu'au bac, si vous décidez d'aller passer un master, vous savez que vous avez des ressources associées qui vont être différentes. On reconstitue simplement ce principe dans le laboratoire.
La décision n'était pas un peu faussée.
Pourquoi ?
Parce que orienté par la patrie.
Mais dans la vie, vous ne croyez pas que la plupart des gens tiennent compte de ce qu'ils peuvent gagner quand ils ont des choix à faire ?
Si, certainement. Enfin, dans notre recherche, on oriente ces résultats.
Mais si vous voulez, ce qui nous intéresse, nous, c'est de reproduire donc un modèle. Donc on part de ce présupposé, on l'assume. Les individus préfèrent gagner plus que moins. Donc on leur donne les conditions pour faire ce qu'ils veulent, connaissant cette règle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir si, effectivement, les individus prennent les décisions conformément au modèle ou pas. Et je vais vous faire plaisir. Très souvent, quand on a ces décisions à prendre, on se rend compte que dans des situations d'interaction en petits groupes, ben, les individus vont préférer gagner peut-être moins, mais avoir un comportement plus moral. D'avoir un comportement qui consiste à faire confiance à l'autre, même si ça lui coûte. Je vais vous montrer des exemples de ça plus tard. Mais pour prouver que les gens raisonnent, non pas seulement en cherchant à maximiser leurs gains, mais aussi ils ont une morale, hein, ils ont une certaine considération pour les autres, ils ont de l'empathie, de la sympathie pour d'autres, etc. Je pourrais d'autant plus le prouver que je les aurais mis dans des conditions où pourtant ils savent qu'il fallait prendre cette décision pour gagner le plus d'argent. S'ils prennent une autre décision qui est plus généreuse face à leur groupe, alors je pourrais dire que j'ai identifié des préoccupations morales qui viennent expliquer que les individus ne se comportent pas comme le prédit mon modèle. Donc ça va être une condition qui va me, par défaut, me montrer que j'ai identifié des autres sources de motivation chez les agents économiques.
Ça arrive souvent.
Et ben, je vais vous donner des exemples. Oui, oui, ça arrive, bien sûr. C'est plus exactement, il y a une fraction de la population qui se comporte de façon totalement égoïste, qui cherche effectivement à gagner le maximum d'argent et qui ne se préoccupe pas des conséquences de ses choix sur les gains des autres. On a à peu près 45%, 50% de personnes qui jouent comme ça. Et puis, vous allez avoir 20 à 30% de personnes qui, au contraire, vont plutôt chercher à prendre des décisions qui les font moins gagner que ce qu'ils auraient pu gagner, mais qui permettent à d'autres de gagner plus que ce qu'ils auraient pu obtenir si j'avais pris une décision différente. Donc, je peux accepter, parce que je n'aime pas l'inégalité, par exemple, je peux accepter, moi, de gagner moins pour que d'autres gagnent un peu plus. Et là, on va trouver 20 à 25% de la population qui réagit comme ça. Voilà. Mais si vous voulez, vous me croirez d'autant plus quand je vous dirai j'ai identifié 20% de personnes qui sont averses à l'inégalité. Vous me croirez d'autant plus que je vous aurais dit oui, mais moi, mes sujets, je les ai mis dans des conditions où s'ils voulaient être égoïstes et gagner le plus d'argent possible, ils savaient comment le faire. Et bien pourtant, ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a d'autres motivations que la seule recherche du gain personnel. Voilà pourquoi on paye effectivement en fonction des décisions. Ça, je ne pourrais pas le dire si je ne payais pas mes sujets. Alors, je vais revenir avec des exemples parce que c'est peut-être plus intéressant.